Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver. Alors, on va parler aujourd'hui d'un projet, un éventuel CSR, qui serait installé dans le quartier Gare au Sud et contre lequel plusieurs réunions publiques se sont déjà tenues. Alors, un CSR, on va vous expliquer bien sûr tout à l'heure de quoi il s'agit. J'ai assisté bien sûr à l'une de ces réunions publiques, au Gazette Café, et en présence de François Vasquez et du professeur Sultan. J'ai reçu le communiqué de député écologiste Jean-Louis Roumégas qui interpelle le gouvernement à ce sujet. Nous l'avons d'ailleurs déjà entendu lorsqu'il était venu l'an dernier à cette antenne expliquer en quoi l'écologie s'élève de longue date contre les incinérateurs, encore hyper polluants, malgré toutes les améliorations qui ont été faites au traitement des fumées. Donc, nous ne découvrons pas un dossier. Par contre, à Montpellier, et comme Montpellier se trouve directement concerné par un nouveau projet, il est vrai que peu de solutions aujourd'hui sont viables. Alors, bonjour François Vasquez.
Bonjour.
Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez en charge du dossier des déchets à la métropole de Montpellier. Vous avez été démissionné de vos fonctions dès qu'est apparu le dossier de l'incinérateur CSR, auquel, bien sûr, vous étiez opposé, puisque vous étiez opposé à cette installation. Alors, vous vous définissez comme un spécialiste du traitement des déchets. Et quand on cherche à définir un CSR, on s'aperçoit que ce n'est pas inutile, parce qu'on trouve vraiment de tout dans les définitions. Pour les uns, le CSR brûle des déchets secs, des déchets non dangereux. Pour les autres, c'est des déchets non dangereux avec un peu de déchets dangereux. Enfin bref, c'est assez compliqué. Et comme vous, vous ne partagez pas cette présentation idyllique de la combustion des meubles et des déchets secs non dangereux, vous affirmez que le CSR de Montpellier devrait certes brûler 45 000 tonnes de déchets qui actuellement se baladent, nous coûtent cher, hein, il reste un poids pour la communauté, mais allègrement, vous transformez dans vos affirmations cette masse en 45 000 tonnes de déchets plastiques. Donc, ça fait quand même une grosse différence. Alors, expliquez-nous la situation montpelliéraine, parce qu'elle est complexe, elle est de longue date aussi. Pourquoi il devient nécessaire, selon la municipalité, de construire ce nouvel outil? Et surtout, comment vous êtes passé des meubles au plastique?
Oui, merci donc de me recevoir. Alors, c'est une longue histoire, hein, l'histoire des déchets sur la métropole de Montpellier. Mais si on veut être très rapide, c'est qu'on a fait un très mauvais choix initial. Déjà, depuis 2008, nous avons une énorme usine de tri industrielle. Pas rentrer dans le détail, mais c'est une usine qui trie les déchets au lieu que cette tâche soit confiée aux citoyens. Et donc, cette usine, ça s'appelle un tri mécanique biologique parce que ça prétendait faire du compost. Ça a été un échec absolu. Moi, je me suis déjà battu contre cette structure industrielle il y a presque 20 ans. Et cette structure est reconnue par l'État et par tout le monde comme un échec total. Et à Montpellier, au lieu de reconnaître l'échec et d'en venir au tri citoyen, c'est-à-dire à la stratégie que d'ailleurs j'ai fait voter, en étant vice-président des déchets de Montpellier, j'ai fait voter en mars 2022 une stratégie zéro déchet avec 100 mesures. C'est-à-dire une autre politique. Une politique où les citoyens prenaient en main le tri et donc la réutilisation, l'économie circulaire et ont baissé les tonnages de déchets. Cette politique a été abandonnée et en milieu de mandat, j'ai vu que le maire de Montpellier, le patron de la métropole, le président, avait décidé de mettre un incinérateur CSR. Mais cet incinérateur CSR, c'est quoi? C'est une volonté des industriels de pérenniser le tri mécano-biologique qui est déjà un échec. C'est-à-dire qu'on a déjà une usine qui a été un échec, qui qui a trié nos déchets pendant 15 ans, et c'est pour cela que ça nous coûte une fortune et qu'on a toujours autant de déchets, et au lieu de changer le mal, eh bien, on ajoute un module en disant on va brûler ce qui en sort puisque cette usine est inefficace.
Alors, on va revenir avec vous sur les solutions que vous aviez éventuellement proposées pour qu'on ait moins de déchets. Mais essayons d'oublier un tout petit peu donc, votre engagement. Et là, quand vous avez été nommé par le maire pour prendre en considération la question des déchets, c'est parce que Montpellier venait de très loin. Enfin, on avait quand même un réel gros problème qui nous coûtait cher, j'ai dit.
Oui, bien, c'est ce que je venais de vous dire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous a coûté cher, c'est le choix du traitement industriel des déchets.
Mais en même temps, on exportait beaucoup. Enfin, comme on ne pouvait pas les traiter, on les envoyait ailleurs.
Ben, disons que quand vous avez des déchets, vous savez qu'on produit des déchets. Il y a deux moyens. Soit vous visez d'en réduire la quantité, déjà à la source, hein, faire de la prévention, lutter contre l'usage unique, le plastique, trier les biodéchets. Vous savez que les restes de repas, c'est 40% de notre poubelle. Bon, si on les met à part et qu'on les renvoie sur le sol, sur la terre, en les compostant, déjà on enlève 40%. Après, si on prend tout le verre, qui actuellement est encore mis dans la poubelle grise, et on le met dans les récipients à verre, on économise 6 millions d'euros par an. Mais ce geste n'est pas fait par les citoyens. Mais pourquoi il n'est pas fait ?
Si, il y a des choses qui sont quand même. Mais pas assez. Exagéré un petit peu.
Ah ben non, parce que moi, je peux vous le dire, j'étais en charge.
D'accord, mais je veux dire qu'on a quand même vu se mettre en place un petit peu quand même des poubelles jaunes, des poubelles noires. Enfin, on a vu...
Ça, c'était ma politique, si vous le permettez. C'était de multiplier des poubelles jaunes.
C'était une politique nationale aussi.
Ben oui, mais pas appliquée à Montpellier. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé à Montpellier, il y avait 10 composteurs de quartier. Voyez-vous, il n'y avait pas de politique vraiment pour trier les biodéchets, pour les composter. Il n'y avait pas les outils. J'ai demandé à ce qu'on mette des biosseaux à tout le monde. Je suis parti juste avant qu'ils soient délivrés, d'ailleurs. Et qu'ils commencent à l'être seulement maintenant.
Et mais on ne l'a pas tous. Hein,
alors qu'on devrait, la loi nous y oblige depuis le 1er janvier 2024.
Je sais, et on ne l'a pas encore.
Alors pourquoi tout ce retard, en effet ? Alors vous l'avez dit, ça a commencé, mais très faiblement. Et pourquoi ? Parce qu'on avait acheté une usine pour trier.
Alors, on va y revenir, mais je voudrais d'abord quand même qu'on on revienne sur cette... Quand se sont passés ces éléments, enfin ces événements qui ont été assez difficiles à vivre de part et d'autre, on avait quand même une situation sur Montpellier qui était irritée d'une certaine manière de longue date. Enfin, ce n'était pas le fait du maire d'aujourd'hui non plus. On avait traité des accords avec d'autres municipalités. On promenait nos déchets. Il fallait un peu assainir tout ça, quoi.
Mais il fallait réduire. Et moi, je peux vous dire qu'entre 2008...
Mais ça, je sais que c'était votre préoccupation, voilà. C'était de réduire. Mais est-ce qu'avant de réduire, déjà, on pouvait faire en sorte que Montpellier prenne ses responsabilités ?
Ben, prendre ses responsabilités pour le maire d'une ville, c'est donner tous les moyens à ses concitoyens de baisser le bac gris. Voilà. C'est de dire, dans le bac gris, 80% de ce qui y est ne devrait pas y être. Mais le rôle du maire et du président d'une métropole, puisque c'est là que le pouvoir se situe, c'est de donner tous les moyens de commodité pour que les citoyens le fassent. Et après, de mettre une fiscalité incitative qui dit « celui qui trie paie moins que celui qui ne trie pas ». Voilà le grand système. Mais tant que vous ne mettez pas cette politique en place, vous avez à Montpellier, on avait 130 000 tonnes de poubelles grises en 2008, on a 130 000 tonnes de poubelles grises en 2025.
Oui, on a plus d'habitants ici.
Oui, mais c'est infini. Non, je vous assure, c'est très peu. Parce que regardez, ce qui a baissé dernièrement, ce qui n'a pas fait monter les déchets, c'est la crise économique, c'est l'inflation et c'est la baisse de la consommation.
Donc vous estimez qu'en fait, on ne forme pas assez les citoyens ?
Absolument pas. Mais pourquoi les former, puisque vous achetez une usine pour trier à leur place ?
Alors, on va y revenir maintenant. Ma question, c'est quand même, est-ce que ça existe réellement ? Parce que à chaque fois qu'on rentre dans cette question des déchets, moi, ça fait 20 ans que je travaille sur le sujet, finalement, à chaque fois qu'on l'aborde, on apprend qu'on en fait encore plus, quoi.
Oui, non, mais ce n'est pas une fatalité, vous savez. À Montpellier, on produit 250 kilos par habitant. À Besançon, c'est 100 kilos de poubelles grises. Pas une fatalité. Quand on va en Italie, qu'on va à Parme, qu'on va à Milan, on s'aperçoit qu'ils sont bien en dessous de 100 kilos par habitant. C'est-à-dire que ce n'est pas une fatalité. C'est une paresse. C'est une facilité. c'est le fait de faire un gros chèque, si j'ose dire, à des multinationales pour qu'ils fassent à notre place un travail. Mais leur place, eux, leur travail, c'est d'être payés à la tonne. Donc, ils ne vont pas nous amener à baisser nos déchets. L'équation est facile à comprendre.
D'accord. Alors, avant d'en arriver là, et c'est-à-dire, si vous voulez, à ce que vous appelez finalement la relation entre les municipalités et les grands groupes, j'aimerais qu'on revienne aussi un petit peu quand même sur, parce que nos auditeurs n'ont peut-être pas la même culture, enfin, cette culture que nous avons des incinérateurs. Les incinérateurs, dès le départ, ça fait une trentaine, quarantaine d'années qu'ils existent, ont été très dangereux. Ils avaient des fumées... des fumées qui étaient très polluantes. Les luttes écologistes ont quand même permis d'aménager les choses.
Alors, les luttes écologistes ont permis, en Europe déjà, d'interdire tout nouvel incinérateur de déchets. En France aussi. Sauf que le diable est dans le détail. Les industriels se sont adaptés. Et maintenant, ils ne proposent pas un incinérateur de déchets, mais un four CSR, dont nous allons parler aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils nous disent « Ah, on ne va pas brûler tout ?» On va brûler qu'une partie des déchets, celle qui a un fort pouvoir calorifique. Mais quelle est la partie des déchets qui produit de la chaleur? Ce sont les plastiques.
Alors, justement, mais des plastiques, il y a quand même... Enfin, vous allez un peu vite. Quand vous dites des 45 000 tonnes de déchets, on passe à 45 000 tonnes de plastique quand même.
Eh bien, je vais vous expliquer comment.
Alors, allez-y.
D'abord, on n'aura pas 45 000 tonnes parce qu'on n'en a pas autant, figurez-vous, la métropole de Montpellier. C'est-à-dire que quand on fait un incinérateur de 45 000 tonnes, on s'attend à prendre des déchets industriels, des déchets privés. Vous voyez ce que je veux dire? On fait un four pour brûler des déchets qui ne sont pas des déchets communaux. Parce que nous, on n'en sortira pas plus de 10-12 000 tonnes de déchets plastiques. On n'en a pas plus. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on dit qu'on va brûler du bois et du papier, mais c'est faux, puisque le bois et le papier est valorisé en matière. D'ailleurs, on a la hiérarchie des modes de traitement qui dit que quand vous avez du papier, du carton et du bois, vous avez obligation à le valoriser en matière.
Mais est-ce qu'on le fait vraiment?
On doit le faire, mais,
non, mais
si vous achetez, non mais si vous achetez un incinérateur, vous le faites plus. Comprenez-vous? Si vous avez des planches de bois et que bon, vous n'avez pas d'incinérateur, vous allez essayer de les recycler, de les réutiliser, de les valoriser. Si vous avez un incinérateur, le bois part directement dans le four. Le carton, c'est pareil. Avec Déméter, on met du papier et du carton qu'on revend à la tonne. Maintenant, le carton, bah, pourquoi est-ce qu'on va se tracasser la vie? On va le balancer éventuellement au CSR. Donc là, on chinte la hiérarchie des modes de traitement qui est d'abord la prévention, ensuite la réutilisation, le réemploi, ensuite le recyclage matière, la valeur, et ensuite seulement on brûle. Mais là, on vient chanter en brûlant pour détourner des flux.
Alors, il y a certes, vous aviez, vous, un plan, et donc vous l'aviez expliqué, donc il est normal que vous ayez senti que vous n'étiez pas reconnu dans votre recherche, hein. Mais on peut dire aussi que finalement est arrivé au niveau national. À ce moment-là, les lois, enfin la loi sur la transition énergétique, et que ça ne vous a pas beaucoup aidé, parce que finalement, la loi sur la transition énergétique, elle valorise essentiellement la production de chaleur, puisqu'il nous faut de la chaleur. Donc, hein,
en fait, ce qui m'a pénalisé,
on a là une espèce de contradiction, comme on en a quand même d'autres d'ailleurs, oui, dans les législations environnementales et françaises, où on a une loi qui vient en contredire une autre.
Vous avez tout à fait raison. Il y a une loi qui dit qu'il faut préserver la qualité de l'air, il faut faire une transition écologique pour le climat, pour l'environnement, pour la santé des populations. Et il y a une autre qui dit, ben, si on pouvait aider nos multinationales des déchets qui brûlent, peut-être qu'on va créer de l'emploi. Et c'est cet état bicéphale qui nous mène dans ces impasses.
Non, pas seulement l'emploi. Je voudrais que vous insistiez aussi un petit peu sur cette nécessité à produire de la chaleur.
Alors, nécessité à produire de la chaleur, mais pas n'importe comment. Je vous explique. On peut produire de la chaleur avec l'énergie éolienne, l'énergie solaire, la géothermie. On ne doit pas produire la chaleur par de l'incinération. Voilà.
Ça, c'est une règle absolue. Est-ce que c'est vraiment clair, hein, dans la loi sur la transition énergétique?
Alors, ça n'est pas clair parce qu'on dit quoi? On part du bas de la pyramide et on dit, avant d'enfouir, vraiment essayez de brûler pour faire de la chaleur. Mais vraiment, si vous allez enfouir. Et là, on commence à dire, prenons tout ce qui peut brûler pour faire de la chaleur. Ce n'est pas du tout le même mode de raisonnement. Ça devient une arnaque industrielle. C'est-à-dire qu'on se dit, avec les déchets, on va créer une énergie renouvelable. Mais pas du tout. Une énergie renouvelable, c'est le vent et c'est le soleil. Ce n'est pas des plastiques qui sont du pétrole. Quand vous brûlez du pétrole, vous brûlez pas, ce n'est pas une énergie renouvelable. Donc vous voyez, on ment sur les mots et on manipule. Et ce qui s'est passé pour les CSR, ce qui m'a le plus pénalisé, c'est la guerre en Ukraine, figurez-vous. La guerre en Ukraine a fait la montée du gaz russe et la filière du business des déchets, qui avait ces usines d'incinération de plastique dans les coffres, dans les cartons, depuis au moins 30 ans, hein, se sont dit, c'est le moment de la ressortir. Le gaz coûte cher, le pétrole coûte cher, on va brûler des déchets. Sauf que, je l'avais annoncé quand ça s'est passé, en 2 ans, le gaz est redescendu, le pétrole est redescendu, avec l'apaisement, on va dire, au niveau des marchés, et on s'aperçoit que nous, on est toujours dans l'idée qu'il faut produire de l'énergie avec des déchets, ce qui est horriblement cher et horriblement polluant.
Alors donc, on est bien d'accord, c'est produire de l'énergie avec des déchets, c'est cher et c'est polluant.
Tout à fait.
Donc c'est ça surtout qu'il faut retenir.
Et surtout au niveau sanitaire, parce que c'est une bombe sanitaire.
Alors maintenant, revenons sur quelque chose que je voulais, qui est importante, qui est effectivement, quand on met en place un CSR, il est évident qu'on est en porte-à-faux avec la loi sur la pollution atmosphérique.
Tout à fait.
Alors, pourquoi ?
Alors, parce que les CSR, vous allez brûler des plastiques.
Alors, ne partez pas de 45 000 tonnes de plastique. Essayons de voir le...
Toute incinération.
Voilà.
Bah, de toute incinération, moi, je vous engage à suivre, par exemple, le docteur Bourdel, qui est à Strasbourg, et qui est responsable du collectif Air Santé Climat. C'est un radiologue, spécialiste, chercheur, associé au CNRS, et qui a suivi notamment une incinération CSR, mais il parle de toutes les incinérations. Il parle aussi des diesels, hein, puisqu'il est sur la qualité de l'air. L'association s'appelle ASEF, A-S-E-F, et il a une association qui s'appelle Respire. Qu'est-ce qu'il nous dit, le docteur Bourdel ? Ben, il nous parle de la pollution atmosphérique. Il nous dit qu'il n'y a rien de pire que la combustion, c'est-à-dire l'incinération, pour la toxicité des molécules solides que l'on retrouve dans l'atmosphère. Parce qu'en fait, quand vous brûlez quelque chose, quoi que ce soit, mais quand vous brûlez des plastiques, vous comprenez bien, c'est plus polluant que quand vous brûlez des biodéchets. Mais quand vous brûlez des plastiques, vous vous rendez compte que vous vaporisez des particules ultra fines et ce qu'on appelle maintenant des PFAS, les polluants éternels. On a des filtres qui arrêtent les plus grosses des particules, mais 90% des particules qui amènent des maladies systémiques, c'est-à-dire des cancers, des leucémies, des lymphomes et des AVC, c'est le docteur qui le dit, je vous engage à suivre ses études, 90% de ces particules toxiques sont des ultra-fines. C'est comme les PFAS. Il faut que vous sachiez que les PFAS, par exemple, sont détruits à plus de 1300 degrés.
Alors,
un four CSR, c'est 800 degrés.
De toute façon, les PFAS ne sont jamais détruits. Donc on aura l'occasion de faire une émission à ce sujet, mais je pense que de toute façon c'est un sujet que maintenant les citoyens suivent de manière très précise dans la mesure où on voit certaines villes en France qui ne peuvent même plus accéder à l'eau potable dans la mesure où il y a dedans des PFAS. Donc on a eu des gens dans les municipalités, et j'en connais sur Montpellier, pour négliger la production des PFAS tant qu'elles étaient aériennes, parce qu'effectivement, une particule fine, ça ne se voit pas, mais quand ça sera dans l'eau, ils seront bien obligés de le voir. Donc, on est à la veille, très certainement, de nouvelles catastrophes. Alors, vous avez évoqué les cancers, vous avez évoqué Strasbourg, mais ici, sur Montpellier, et d'ailleurs, lors de la réunion à la Gazette, vous étiez accompagné du professeur Sultan. Et le professeur Sultan, on le connaît bien, on connaît son action à Montpellier, il a beaucoup travaillé sur les perturbateurs endocriniens.
Tout à fait, oui.
Alors, quelle est cette relation avec les incinérateurs,
hein. La relation, c'est que si vous voulez, la qualité de l'air, c'est la première cause pour l'OMS, pour l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est-à-dire que vous avez 50 à 60 000 morts par an dues à la qualité de l'air, aussi bien sur des cancers, chez des non-fumeurs, que chez des problèmes d'infarctus et tout ça. Mais les perturbateurs endocriniens se retrouvent des pathologies qui vont entrer à cause de des molécules. Vous avez des hydrocarbures, je ne vais pas être trop long, mais hydrocarbures aromatiques, les HAP. Vous avez des dioxines, des furanes, des métaux lourds. Tout ça, ça se retrouve dans l'air, en fines particules. C'est-à-dire c'est du solide qui est vaporisé. Parce que quand vous brûlez quelque chose, ça ne disparaît pas, hein, ça c'est Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée. Vous avez un quart qui reste en cendres et en cendres de fumée, et vous avez le reste qui part quand même en évaporation. Enfin en évaporation, en ventilation dans l'air. Et donc quand vous avez tout ça, ça passe. Et le vice de ces histoires, c'est qu'au niveau des... ça passe la barrière des poumons. Ça va dans le sang, ça va dans le cerveau. Et vous avez des notes, comme le dit d'ailleurs dans la circulation placentaire, jusqu'au fœtus. Pourquoi on dit ça ? Ben parce que ce sont des polluants extrêmement violents, si vous voulez, pour
alors,
la santé.
Jusqu'à présent, on s'en était pas trop préoccupé, parce que finalement, c'était ces fameuses particules fines, on les dénonçait, mais elles étaient dans les poumons. Et puis maintenant, on s'aperçoit qu'elles sont partout, elles arrivent à passer,
mais oui.
Même dans le sang. Elles sont dans le sang.
Exactement, parce qu'on ne cherche que les PM2,5 et PM10. Voilà, c'est les plus grosses. Mais les ultra fines, elles font 0,1 micron. Les ultra fines, elles traversent. Elles vont finir dans le cerveau, dans le cœur et dans les fœtus. Et celles-là, c'est 90% des particules, c'est pas moi qui le dis, hein, sont les scientifiques, hein, sur les associations Air, Santé, Climat, qui se retrouvent. Et c'est ça qui donne des maladies systémiques. Or, ce qu'on oublie aussi, c'est l'effet cocktail. On met des incinérateurs toujours dans les mêmes quartiers. Les quartiers populaires et dans le monde, quand vous étudiez, les quartiers des minorités. Pourquoi ? Parce qu'on dit qu'ils sont déjà pollués. Regardez à Montpellier. C'est à la sortie ouest de Montpellier où il y a l'autoroute qui est doublée qu'on met un incinérateur. On prévoit un autre incinérateur pour les boues à la sortie sud de Montpellier. Deuxième incinérateur à 2 km d'écart pour incinérer des boues d'épuration. Donc actuellement, ce n'est pas un, c'est deux projets d'incinérateur sur Montpellier. Alors que Montpellier n'en avait jamais eu jusqu'à présent. Or, les molécules dans l'air se combinent. C'est-à-dire les oxydes d'azote qui sont dégagés par les diesels, par les voitures de l'autoroute. Il n'y a pas de ZFE hein, sur l'autoroute. Hein, même... Eh bien, se mélange avec ces combustions. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et là, moi, je trouve qu'il y a une forme de cynisme que de dire... Parce que, vous savez, Montpellier, c'est une métropole de 30 communes. Hein. Aucun maire n'aurait accepté l'incinérateur CSR. Hein. Aucun. Et là, on accepte pourquoi ? Parce qu'on a des quartiers populaires, hein, Gare au Sud, Croix d'Argent, Ovalie. On se dit, ben là, bon, enfin, il y a les PFAS, et ben ma foi, l'air ambiant. Vous savez, ça a même été dit par un élu. Hein.
Oui,
je ne vais pas donner son nom par charité chrétienne,
oui.
Mais oui. Il a dit que l'air ambiant sera plus pur que ce qui sortira de l'usine sera plus pur que l'air ambiant, ce qui est un cynisme absolu.
Mais j'ai aussi entendu une élue qui disait que finalement, se battre contre les pollutions atmosphériques, c'était faire de l'écologie négative. Hein.
Oui, mais voilà, bien sûr. Bon. Du moment qu'ils ne sont pas voisins de l'incinérateur,
voilà.
Hein, ces îles-là.
Alors, simplement, ce que je voudrais savoir maintenant, si vous voulez, c'est finalement, là, vous venez de nous parler longuement de Montpellier, est-ce qu'il y a d'autres villes en France qui ont abandonné un projet d'incinérateur ?
Alors, les projets d'incinérateur, il y en a qui sont faits par des industriels, notamment les cimentiers. Donc là, ce n'est pas la collectivité qui le fait, c'est un cimentier. Et il y a des entreprises. Par exemple, dernièrement, donc, pour répondre à votre question, à Marseille, il y a Arkema, qui est un géant du plastique, à Fos-sur-Mer, qui avait prévu de faire un CSR. Et figurez-vous que quand il a vu le coût que ça allait représenter, alors Arkema, c'est un industriel, hein, lui, il n'a pas fait ça pour la pollution de l'air, hein, il n'a pas fait ça pour la santé ni pour le climat. Il a regardé ses comptes. Il a regardé la comptabilité. Il s'est dit, c'est pas possible, c'est pas viable, c'est trop cher. Et donc, ils ont abandonné. Donc déjà, il y a des raisons économiques aussi pour abandonner ces projets. Parce que nous, on va les payer en tant que contribuables. Dans cette affaire, on va être cobayes et pigeons.
Oui, mais là, est-ce qu'il y a d'autres villes qui ont abandonné ? Alors, Le Havre,
oui,
avait par exemple un projet. Il l'accepte ou il ne l'accepte pas ?
Alors, je vous dis franchement, je n'ai pas toutes les évolutions,
d'accord,
de tous les projets. Dans la Drôme, il a été abandonné par Paprec. Et là encore, c'est à noter. Parce que le projet était ficelé. Toutes les autorisations permis de construire bouclées, et c'est Paprec, donc l'entreprise, si vous voulez, elle-même, qui a dit « on ne le fait pas ». Vous voyez, ils ont arrêté avant nous. On a une levée de bouclier aussi citoyenne pour la santé des gens, en premier. Après, pour leur argent et pour le climat. Mais eux, c'est économique. Ils ont dit « on ne le fait pas ».
Alors, justement, puisqu'on discute un peu de problèmes économiques, vous aviez dans vos revendications, indépendamment de tout ce qu'on vient de voir, hein, l'économie circulaire, enfin, etc., vous aviez, on est à un an des municipales, et vous aviez une exigence, en tout cas, un souhait, c'était que on ne préjuge pas De l'avenir que on laisse finalement le futur maire, qu'il soit de la Fosse ou un autre, mais décider de l'investissement qui serait fait sur le CSR et qu'il n'y ait rien de voté budgétairement avant. Alors, est-ce que vous... Où on en est à ce point-là?
Je pense qu'au niveau démocratique, c'est la moindre des choses.
Absolument.
Vous avouerez que là, ce qu'il s'agit de faire, ça n'est pas juste un four. C'est de remettre une usine de tri, d'y ajouter une usine de préparation de CSR, d'y ajouter un four. C'est donc une chaîne industrielle qui va coûter plusieurs centaines de millions d'euros. Quand vous payez une chaîne industrielle, vous payez sa construction et son exploitation. Et comme ça va être sur 20 ans, comment peut-on imaginer qu'à un an du mandat, on engage sur 20 ans la collectivité sur des centaines de millions d'euros?
Ma question était, est-ce que vous avez été entendu sur ce plan-là? D'après les échos donc, que moi j'ai, il n'y aura pas de budget qui sera adopté avant effectivement les prochaines municipales. Mais par contre, on va avoir quand même des accords qui vont être signés.
Non, en fait, je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais vous savez, c'est du billard à trois bandes. Hein. C'est des joueurs de poker qu'on a en face. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que cet été, il est prévu un vote pour déterminer celui qui va créer la filière et l'incinérateur à plastique à Montpellier. Ça va être voté cet été. Et il n'est pas question de différer cette décision. Donc l'engagement formel va être pris cet été. Et ce qui se passera, c'est que le prochain maire, si ce n'est pas le même, va devoir casser ce contrat de plusieurs centaines de millions d'euros avec des pénalités exorbitantes.
D'accord.
Mais on sera obligé de le faire.
Pas de budget, mais un accord
qui revient même
à accepter ou à refuser.
Parce que, voilà, le vice dans cette affaire, c'est de considérer comme vous donnez ce qu'on appelle une DSP, une délégation de service public, vous ne payez pas tout de suite. C'est un peu comme un appartement que vous achetez, voyez ? Donc là, le maire va signer pour, par exemple, 300 millions d'euros ou 400 millions d'euros sur 20 ans. Et il ne va rien payer tout de suite. Donc il vous dit on n'engage pas de budget, évidemment. C'est quand elle va sortir de terre qu'on va commencer à payer et au fur et à mesure. Mais par contre, le contrat risque de nous coûter très cher. Et moi, je vais être extrêmement vigilant en tant qu'élu pour qu'on n'engage pas la métropole dans cette folie.
Alors, dernière question, parce qu'on va bientôt se quitter, on est à la fin de cette émission. On a ici sur... finalement, on a une responsable régionale qui est relativement au courant des problèmes énergétiques, etc. Et est-ce que la région est d'accord avec cette mise en place du CSR?
Alors, le grand drame de tout cela, c'est que même l'ADEME, l'agence de l'État, qui est là pour la transition écologique, l'ADEME finançait jusqu'à maintenant ce genre de structure. Le TMB, qui est un échec...
C'est le problème qu'on a soulevé tout à l'heure. C'est cette espèce de dichotomie et même de divergence entre deux lois.
Mais avouez que l'agence qui est pour la transition écologique vote quelque chose qui va polluer l'air, l'environnement, qui est contre le climat, contre la transition écologique et qui ne change rien sur les déchets, puisque je rappelle que tout ce qui va rentrer dans cette filière, les trois quarts de ce qui vont rentrer vont quand même aller à l'enfouissement. Et c'est ça que les gens ne savent pas. Si les gens pensaient que c'était utile, on dirait, on n'a pas le choix, on va être pollué. Même certains auront des cancers, mais que voulez-vous, c'est comme ça.
On a toujours le choix.
Mais là, on a vraiment le choix, parce que cette décision est stupide, parce qu'elle est inutile. Les trois quarts des déchets iront quand même à l'exportation. Et moi, j'ai toutes les preuves, je suis toujours prêt à n'importe quel débat public pour le démontrer.
Merci, on suivra donc cette aventure.
Merci beaucoup.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.